Vous asseoir, nous allons lire la parole de Dieu maintenant ensemble. Tournons dans nos Bibles en Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 à la page 677 dans notre Ancien Testament. Ésaïe 9, 1 à 6. Que nous lirons une fois que nous aurons prié, mais prions d'abord. À qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Cette lecture de ta parole, nous voulons l'écouter avec le plus grand respect, avec des cœurs reconnaissants, des cœurs soumis qui veulent être obéissants et vivre tout près de toi, attachés à toi. Renouvelle en nous, par le Saint-Esprit, la loyauté que tu mérites de la part de ton peuple. Fais-nous ce matin un grand bien à l'écoute de ta vérité, nous t'en prions. Que ton nom soit honoré et glorifié à travers la prédication de ta parole. Que ce soit ici et partout dans le monde où ta parole est publiée aujourd'hui. Par Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons ensemble cette lecture en Ésaïe 9, les versets 1 à 6. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends la nation nombreuse. Tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. 208 quoi? Un professeur de théologie a noté à la lecture de la Bible 208 titres qui sont donnés au Fils de Dieu dans la parole de Dieu. Divers titres qui illustrent ou indique pour nous ce qu'il est et ce qu'il fait, la nature de sa personne et de son œuvre. Et lorsque nous méditons, lorsque nous prenons la peine de bien méditer ces divers titres qui sont attribués au Fils de Dieu dans la parole de Dieu, eh bien nous en arrivons à une compréhension plus pleine et entière de la valeur inestimable du Fils de Dieu qui est tellement riche et qui est source d'une grande abondance de bonheur pour ceux qui se confient en lui. Nous avons commencé dimanche dernier à regarder des titres qui sont donnés au Fils de Dieu en Ésaïe 9, le verset 5. Nous sommes arrêtés dimanche dernier au titre « Admirable conseiller » et ce matin nous allons avancer au titre « Dieu puissant ». Pour bien comprendre ce titre, il importe de revenir au contexte de Ésaïe 9:5 et particulièrement ce matin au verset 3 que nous avons lu et que je relis maintenant. Car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises comme à la journée de Madian. Elle, ici dans ce verset, c'est la nation d'Israël. Un joug pèse sur elle. Elle est frappée, elle est opprimée par les Assyriens. Pourquoi? Parce que Dieu se sert des Assyriens pour châtier son peuple rebelle. Nous lisons en Ésaïe 10. L'Éternel dit, l'Assyrien est le bâton de ma colère, c'est l'instrument de ma fureur. Je le lâche contre une nation impie, je le dirige contre le peuple qui mérite. Autrement dit, le véritable tyran cruel qui opprime la nation d'Israël, c'est le péché. C'est le péché du peuple, c'est l'éloignement de Dieu de la part du peuple qui s'est enlisé dans une rébellion. Autrefois, en Égypte, le peuple d'Israël était opprimé, il était maltraité dans un esclavage. Maintenant, il est esclave de ses propres péchés. C'est ses péchés qui l'oppriment et l'écrasent. Comment pourront-ils se sortir de cette oppression? Certainement pas par leurs propres moyens, par leurs propres ressources, par eux-mêmes. Non, c'est bien sûr, mais c'est Dieu qui va les délivrer par l'envoi du Messie, de ce roi messianique promis et tant attendu. Le verset 3 à la fin nous dit « Ce sera comme à la journée de Madian ». De quoi s'agit-il? La journée de Madian fait référence à la victoire de Gédéon sur les Madianites. C'est une histoire extraordinaire qui nous est rapportée en Juges 6, 7 et 8. Et je la résume brièvement pour nous. Les Madianites et leurs alliés s'approchent pour attaquer le peuple de Dieu et ils sont 135 000. Gédéon réussit à recruter 32 000 soldats pour affronter 135 000 Madianites. Et Gédéon entend des paroles de la part de Dieu qui peuvent sembler vraiment étranges. Dieu dit à Gédéon, « Vous êtes trop nombreux pour que je livre Madian entre vos mains. Vous êtes trop nombreux. » Et Dieu alors fait des coupures par divers événements et il fait passer l'armée de Gédéon de 32 000 à 10 000. Et j'imagine Gédéon qui se disait, bien, on va y aller avec ces 10 000-là, on va faire ce qu'on peut. Gédéon aurait aimé faire plus de recrutement, mais Dieu fait du congédiement et fait diminuer l'armée. Mais ce n'est pas tout. Dieu continue, puis il dit, ton armée est encore trop nombreuse, Gédéon. Les Israélites pourraient tirer gloire et m'oublier, et penser que c'est eux qui ont rapporté la victoire, et se vanter, s'enorgueillir. Alors Dieu fait encore des coupures dans l'armée et réduit l'armée de Gédéon à 300. 300 contre 135 000. Ça veut dire que pour chaque soldat de Gédéon, il va y avoir en face de lui 450 soldats de Madian. C'est une situation assez exceptionnel que nous voyons dans ces récits. Autrement dit, Dieu rend la situation à un point tel que la seule solution pour Gédéon et les Israélites, c'est de faire confiance à 100% à Dieu. C'est Dieu qui va donner la victoire. Et c'est ce qui arrive finalement, pour faire une histoire courte, comme on dit. C'est la grande journée où l'Éternel Dieu donne la victoire à son peuple, par sa puissance, puissance souveraine, parce que le salut appartient à l'Éternel. Le salut appartient à l'Éternel. C'est une phrase qui revient souvent dans la Bible. Et donc, les Israélites ne pourront pas se vanter, s'enorgueillir d'avoir remporté la victoire, mais la victoire vient entièrement de Dieu. La journée de Madian est donc prise ici comme un type de la grande délivrance que Dieu va opérer pour son peuple, en délivrant son peuple de ses péchés, en envoyant ce roi messianique venir pour porter les péchés du peuple. La délivrance du péché va venir de cet enfant, de ce fils dont parle le verset 5, qui va naître et qu'on va appeler le Dieu puissant. L'apôtre Paul écrit en Tite 2, Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. L'apôtre Jean dit « Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui la puissance au siècle des siècles. » Il n'y a aucun doute possible que Jésus-Christ est l'accomplissement de ce que Ésaïe annonce en Ésaïe 9, 5. Deux questions sont devant nous maintenant. Comment voyons-nous dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est le Dieu puissant qui nous délivre de nos péchés? Et deuxième question, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Reprenons ces deux questions. Premièrement, comment voyons-nous dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est le Dieu puissant qui nous délivre de tous nos péchés? C'est un sujet passionnant. Et la réponse surgit au tout début du Nouveau Testament, en Matthieu 1. Un ange apparaît à Joseph et lui dit, « Joseph, fils de David, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Un fils qui est Dieu, qui va nous délivrer de nos péchés. Pourquoi notre Sauveur doit-il être Dieu? C'est parce que le salut vient de l'Éternel. Pourquoi notre Sauveur doit-il être Dieu? Notre catéchisme de Heidelberg répond, « Pour que dans son humanité, il puisse, par la puissance de sa divinité, soutenir le poids de la colère de Dieu, nous acquérant et nous rendant ainsi la justice et la vie. Tout péché mérite la colère de Dieu. Pour que nous évitions la colère de Dieu, le Fils de Dieu vient et prend sur lui la colère que nous méritons, comme s'il avait lui-même commis tous nos péchés. Et il nous donne sa justice comme si nous avions toujours obéi parfaitement à la bonne loi de Dieu. C'est cette substitution qu'il accomplit par amour pour nous. Ésaïe 53 développe en détail cette substitution dans ce chapitre bien connu. Mais revenons encore à notre Nouveau Testament. Et cherchons encore à mieux répondre à la question, comment voyons-nous dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est le Dieu puissant qui nous délivre de nos péchés? Écoutons quelques témoins. Et à tout Seigneur, tout honneur, écoutons d'abord le témoignage de Jésus lui-même. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est le témoignage du Fils de Dieu lui-même qui appelle les hommes à aller à lui pour obtenir le pardon des péchés. Écoutons le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit venir à lui Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Écoutons le témoignage de l'apôtre Paul et ses versets que je vous relis, qui sont bien connus, soit pour vous comme la plus belle musique à vos oreilles et à vos cœurs. L'apôtre Paul dit, « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il s'est donné lui-même pour nous. Tous ceux qui croient sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auront la foi en son sang. En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et bien sûr que l'apôtre Paul est un témoin frappant de cet accomplissement d'Ésaïe 9:5 en Jésus-Christ. Écoutons le témoignage de l'apôtre Pierre. Le Christ n'a pas commis de péché, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il est mort une seule fois pour les péchés, lui le juste, pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Ce n'est pas par des choses périssables comme l'argent ou l'or que vous avez été sauvés, mais c'est par le sang précieux de Christ. Tous les prophètes rendre de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes sont unanimes pour nous diriger vers le Christ Jésus pour obtenir le pardon des péchés. Et finalement, écoutons le témoignage de l'apôtre Jean. Le Seigneur Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. Le Christ Jésus est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Tous ces versets, et on aurait pu en ajouter plusieurs autres, sont la plus belle musique à nos oreilles si nous appartenons au peuple de Dieu, parce que nous savons que tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos transgressions de la bonne loi de Dieu sont pardonnées grâce à Jésus-Christ, le Dieu puissant qui est venu pour nous, qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Regardons deuxièmement ce que ceci peut signifier pour nous. Et évidemment, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire ici. Je vais souligner trois éléments. D'abord, premièrement, puisque tous les êtres humains, sans exception, sont des pécheurs, tous les êtres humains, sans exception, ont besoin du Sauveur, Jésus-Christ, le Dieu puissant, Dieu avec nous. Jésus lui-même a dit, « Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est une parole puissante du Sauveur pour amener tous les êtres humains à se tourner vers lui. Sinon, c'est la mort dans le péché. Nous sommes avertis. Lorsque le geôlier de la prison de Philippe a demandé à Paul et Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a cru, il a été sauvé. Et ce message est encore aujourd'hui un message valide, c'est un message proclamé par le peuple de Dieu partout sur la terre. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ceux qui refusent de croire, Jésus dit, « Ils vont mourir dans leurs péchés. » Le livre de l'Apocalypse dit qu'ils vont le regretter dans les tourments éternels. Deuxièmement, pour tous ceux qui ont reçu le cadeau du salut que nous procure le Dieu puissant qu'est Jésus-Christ, il y a une joie immense, incomparable, véritable, profonde, quotidienne. Regardez en Ésaïe 9, le verset 2. « Tu rends la nation nombreuse, tu lui dispenses la joie. Elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Dieu va rendre la nation nombreuse en ajoutant à la nation d'Israël des sauvés de toutes les nations, des gens qui vont obtenir le pardon de leurs fautes dans toutes les nations. Les sauvés vont avoir une grande joie, comme on se réjouit à la moisson. Le psaume 126 dit, parle de ceux qui moissonnent avec des cris de triomphe. Ils ont travaillé très, très fort, puis là, c'est la moisson, puis il y a une grande moisson, puis ils moissonnent avec des cris de triomphe. Ésaïe utilise aussi l'image de ceux qui partagent le butin, ceux qui ont un immense trésor et qui sont très joyeux de pouvoir partager le trésor. Un petit peu plus loin, en Ésaïe, Dieu dit, « Je crée mon peuple pour l'allégresse et la joie. » Je crée mon peuple pour l'allégresse et la joie. Dieu veut que son peuple soit joyeux, rempli d'allégresse. Il procure à ses enfants bien-aimés la joie la plus grande, la plus solide, la plus durable. On pourrait quasiment dire la seule vraie joie, elle se trouve dans ce salut que nous amène le Dieu puissant, qu'est le Fils de Dieu. Ce Dieu puissant, Jésus, qui vient mettre en nous une exaltation, une jubilation, un bonheur immense et incomparable que rien d'autre ne peut nous donner. Troisièmement, nous avons accès à la puissance de Dieu pour mettre à mort les restes de péché en nous. Et ceci est une excellente nouvelle. Les apôtres du Nouveau Testament ont enseigné que la force du Dieu puissant est à notre disposition pour mettre à mort les restes de péché en nous. Je vous rappelle, par exemple, en Colossiens 1, l'apôtre Paul nous avait dit « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, de sorte que vous soyez tout à fait patients et persévérants. » Par sa force glorieuse, dit Paul. Il avait dit aussi qu'il œuvrait, qu'il travaillait par la force de Dieu, en Colossiens 1. La force de Dieu, la puissance de Dieu est disponible pour que le peuple de Dieu y puise pour pouvoir vivre d'une manière sainte, pour pouvoir servir l'Éternel aussi. En Éphésiens 1, Paul prie pour que ses lecteurs soient illuminés pour qu'ils sachent quelle est la grandeur surabondante de la puissance de Dieu envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Paul multiplie toutes sortes de mots un peu extrêmes pour stimuler le peuple de Dieu à prier et aller puiser dans cette force, cette puissance divine pour pouvoir vivre la vie chrétienne. Nous avons accès à la puissance du Dieu puissant pour mettre à mort notre vieille nature pécheresse. Et ceci est une excellente nouvelle pour chacun de nous. Savez-vous qu'un esprit critique peut être changé par un esprit d'encouragement? Une tendance à l'ivrognerie peut être remplacée par la sobriété. L'irritabilité peut laisser la place à la douceur. L'ingratitude peut disparaître et être remplacée par le contentement, la reconnaissance. La paresse peut être vaincue par la diligence. La gloutonnerie peut être remplacée par la maîtrise de soi. Le refus de donner l'offrande à l'Église peut être remplacé par un grand bonheur de vouloir œuvrer au service de Dieu. La surconsommation de télévision peut être remplacée par une vie vécue au service de l'Éternel en faisant des bonnes œuvres. Tout ça peut être possible par la puissance de Dieu. Dieu est puissant, oui, il vient et il nous délivre de la punition du péché. On l'a vu tous ces versets tantôt, nous sommes pardonnés. Mais ce n'est pas pour nous laisser patauger tout le reste de notre vie dans nos faiblesses et nos mauvaises habitudes et nos défauts, mais il vient aussi nous accorder la puissance, de la force qu'il nous donne pour que nous puissions cheminer et avancer dans la sanctification, ce beau processus qui transforme quelqu'un à la ressemblance du Christ Jésus. On peut apprendre à ne plus se mettre en colère pour des bagatelles, c'est possible. On peut apprendre à cesser d'être insensible aux autres et de commencer à avoir à cœur de s'intéresser à eux. On peut arrêter d'être glacial quand c'est le temps d'adorer Dieu. On peut arrêter de craindre les hommes et se mettre petit à petit à témoigner pour le Seigneur. Comment? Par la force de Dieu puissant. Le Dieu puissant peut nous délivrer de ce fatalisme paralysant qui fait qu'on est porté à dire « Ah, que voulez-vous, je fais de même, je ne changerai jamais toute ma vie, je vais être comme ci, comme ça. » Non! Il a de l'espérance parce que le Dieu puissant est avec nous. Et on voit ça beaucoup dans le Nouveau Testament. Saul de Tarse était un homme emporté et violent. Il est devenu, par la grâce et la puissance de Dieu, un homme doux et rempli d'amour. Zachée était un voleur. Il est devenu un homme généreux. L'apôtre Pierre était un homme orgueilleux. Toute sa confiance est en lui-même. Il est devenu un homme humble. En 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul a une liste de ceux qui étaient autrefois. Il dit, vous étiez autrefois débauchés, idolâtres, adultères, dépravés, homosexuels, voleurs, cupides, ivrognes, insulteurs, accapareurs. Mais il dit, vous avez cessé de l'être. Vous n'êtes plus ça. Vous étiez ça, vous n'êtes plus ça. Hein, parce que Dieu a agi dans leur vie par sa puissance et les a complètement transformés. Par la puissance de Dieu puissant, leur vie a été changée. C'est une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle pour nous aussi. La parole de Dieu, l'Évangile, la grâce de Dieu ne nous est pas donnée pour notre information, point. Elle nous est donnée pour notre transformation aussi, chaque jour. C'est très encourageant pour nous. Comment avoir accès à cette puissance, à cette force de Dieu, tout simplement par la prière. À Gethsémané, notre Sauveur dit à ses apôtres, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La prière est le moyen par excellence, le moyen principal d'obtenir la force que Dieu donne à ceux qui veulent, par sa grâce, vaincre leur faiblesse et avancer dans la sanctification. Donc, notre responsabilité, c'est de demander à Dieu sa force, son secours. On a vu dimanche dernier que notre Sauveur est l'admirable conseiller. Mais cet admirable conseiller est aussi le Dieu puissant qui peut nous donner la force de suivre ses conseils. On avait parlé de cette parole au psaume 119, « Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Nous, nous pouvons donner des conseils à quelqu'un, mais nous ne pouvons pas donner à la personne la force de suivre les conseils. Nous ne pouvons pas nous énergiser la personne pour qu'elle suive notre conseil. Mais Dieu, lui, l'admirable conseiller, qui est à la fois le Dieu puissant, peut donner la force, l'énergie, ce qu'il faut, la disposition pour qu'on puisse suivre ses bons conseils. Il aime répondre aux prières de ses enfants. Ésaïe prie, un petit peu plus loin dans son livre, ceci, « Éternel, nous espérons en toi, sois notre force chaque matin. » Sois notre force chaque matin. Quelle bonne prière à faire pour chacun d'entre nous. Ésaïe se rend compte que le peuple était dans une situation périlleuse et il se dit, sans Dieu, sans sa force, on est foutu. Il n'y en aura pas de délivrance. Mais Seigneur, sois notre force chaque matin et par la suite le Seigneur exauce la prière et délivre encore son peuple. Chaque jour, sans exception, nous avons besoin de cette force du Dieu puissant. Chaque jour. Comme dit un cantique, « Chaque jour, à chaque heure, ô, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. » Comme dit un autre cantique, « Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. » Comme dit un autre cantique, « Ce Dieu fait enfant, ô, qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est bienfaisant. » C'est une bonne discipline d'être sur nos gardes chaque jour, contre nos habitudes pécheresses. Et dès que nous voyons qu'il y a cette tentation qui surgit, invoquer Dieu, prier Dieu, demander la force de Dieu puissant pour qu'il vienne à notre secours. Le Dieu puissant donne la force, la puissance de vivre la vie chrétienne, de servir Dieu, d'exercer nos dons, mais aussi de mettre à mort notre vieille nature pécheresse. Mettons donc la prière en priorité dans notre vie. La prière est le moyen par excellence par lequel nous sommes en connexion intime avec le Dieu puissant, le Dieu vivant. La prière ne doit pas être juste une petite appendice à notre vie, mais ça doit être notre vie entière, parce que c'est par ce moyen que Dieu nous accorde sa grâce et sa force et sa puissance. En Ésaïe 40, Ésaïe dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel » reçoivent des forces nouvelles, des forces nouvelles. On en a besoin, des forces nouvelles. Et comment allons-nous les obtenir? Ésaïe dit, ce sont ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui demandent la force de Dieu, ils reçoivent des forces nouvelles. Vous comprenez donc que ce qui est plus important pour nous, c'est d'être en tout temps connecté à Dieu par la prière. Plus important que d'être connecté toujours à notre téléphone intelligent, à notre tablette, à notre ordinateur, avec ces appareils qui ont envahi notre quotidien. C'est très facile de se débrancher du Seigneur et de rester connecté en tout temps à toutes sortes d'influences nocives. Personne n'est trop connecté à Dieu, mais beaucoup de gens sont trop connectés à ce qui n'est pas Dieu. Que notre Sauveur, le Dieu puissant, nous fasse expérimenter chaque jour la puissance de transformation de nos vies à la louange de sa gloire seule. Amen.